enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Dieu a toujours voulu parler. Amen. De tout temps, il a voulu parler à l'homme et lui parler de cœur à cœur. Il l'a fait de mille et une manières, par la nature, il nous parle encore aujourd'hui. Quand on voit les belles montagnes, quand on voit la nature, on ne peut pas se dire autre chose que « c'est pas possible, il y a quelqu'un qui a fait ce truc-là hein ». Cette belle horloge, il y a dû y avoir un horloger qui l'a faite. Et puis il parle par la conscience aussi, par nos cœurs. Il vient tout à coup, on sait que ça c'est mal. Voilà, c'est ma petite fille qui dernièrement a été prise sur le fait en train de tirer un tiroir. Vous savez que maintenant, à cet âge-là, elle veut toujours tout vider. Alors, elle est en train de vider. Et puis, elle est partie, elle s'est retournée, elle a fait un mètre. Maman est arrivée, elle dit, « Emma, qu'est-ce que t'as fait ?» Et elle dit, « Zozo, Zozo. » Elle a tout juste 2 ans. « Non, c'est pas moi, c'est elle. » Hein, c'est, voilà, c'est comme ça, les filles. Les garçons aussi, je veux dire. En tout cas, c'est intéressant, Dieu parle, n'est-ce pas? Dieu parle d'une manière et d'une autre, et la lettre aux Hébreux nous dit, dans l'ouverture du texte, nous dit que Dieu a parlé autrefois par les prophètes, par la loi, etc. Mais dans les derniers temps, il a parlé par son Fils. Et pour bien se faire comprendre, eh bien, Dieu a imaginé une chose inouïe. Imaginez que moi, je puisse devenir une fourmi. Incroyable, ça, hein? C'est pas vrai, ça n'arrivera jamais, je vous assure. Mais imaginez qu'on puisse devenir des fourmis. Qu'on puisse, nous, les grands bonhommes, là, d'1m77 et X kilos, je ne dirais pas combien de kilos que j'ai, qu'on puisse devenir des petites fourmis tout en restant pleinement homme. C'est-à-dire qu'il suffirait que je fasse comme ça, claque des doigts, et Samuel me secourrait. Voilà. Amen. Il dit Amen. Vous dites même, vous dites Amen, vous. Hein. Vous avez dit, le Claude, parmi les fourmis, il n'a qu'à se faire manger. Voilà. Hein. Non mais, honnêtement, Dieu a choisi cette idée de vraiment s'approcher de nous pour qu'on le comprenne très bien. Pour que vraiment ce qu'il dit en le vivant, l'exemple qu'il mène, puisse nous parler. Et c'est tout le mystère de l'incarnation que nous fêtons ces prochains jours. C'est pourquoi on a mis des bougies pas allumées, mais ça c'est pas grave. Et puis des étoiles, où on fête l'arrivée de Christ sur terre. Et je voudrais ce soir, eh bien, voir avec vous ce mystère était marqué, ce mystère de l'incarnation, et quelques implications. C'est tellement vaste que ce soir on va juste aborder une facette de la chose. Mais je voudrais avec vous lire 2 passages. Le premier est très connu dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Je vous le cite par cœur. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole qui, dans Jean 1, verset 1, nous dit qu'il est... Cette parole, eh bien, elle était au commencement. Elle était avec Dieu, elle était Dieu, et par elle, tout a été fait. Et cette parole-là, de Genèse 1, eh bien, est devenue chair dans le corps de Marie. Voyez-vous, quand on fête Noël, on pense souvent à Emmanuel, n'est-ce pas? On chante Emmanuel, on le vit, c'est marqué dans Matthieu 1, verset 21, qu'on l'appellera Emmanuel, ce fils de Dieu. Et avant qu'il ne parte, il va dire à ses disciples, « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et on a cette assurance que Dieu est à nos côtés, avec nous. Mais Dieu va plus loin avec nous. Il va aller tellement proche de nous qu'il veut venir habiter en nous. Et ce qui s'est passé dans le corps de Marie peut aussi se passer dans chacune de nos vies. Non pas dans le sens de devenir enceinte, mesdames. Rassurez-vous, repartirez tranquille ce soir. On ne parle pas d'une conception physique, mais d'une conception spirituelle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Mais cette parole, eh bien, elle a des implications. Je voudrais voir avec vous une implication, celle qu'elle a eue pour le Fils de Dieu. Dans l'Épître aux Philippiens, dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2 et les versets 6 à 11. On va juste lire quelques versets rapidement. Philippiens 2. Verset 5 déjà, « Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, c'est un gros morceau de steak ce soir. On va essayer un peu de le disséquer, ce steak. On pense que c'était un strophe ou un refrain d'un cantique que l'Église primitive chantait et qui résumait un peu la pensée de Paul au sujet de l'incarnation et de la glorification du Christ. Alors, peut-être quelques implications pour le Seigneur. La première des implications que l'incarnation a eu pour le Seigneur, je vous rappelle l'image de l'humain qui devient une fourmi, le parallèle ou la comparaison, il est marqué là, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus était le Fils de Dieu. Il était Dieu. Là, depuis tout temps. Et maintenant, voilà qu'il accepte pour le besoin de la cause de se faire comprendre par les fourmis que nous sommes. Il accepte de devenir pleinement un homme. Il accepte une réduction. Et il aurait pu vouloir, pendant son temps sur terre, essayer de montrer qu'il est Dieu, essayer d'arracher comme une proie arrachée, être l'égal de Dieu. Eh bien, il ne l'a pas fait. Il avait une vision juste de lui-même. Il n'était pas là à s'accrocher à son poste de Dieu. Il était pleinement homme. Combien de nous, on est là des fois à vouloir s'accrocher à des positions, à des honneurs, à des avantages, parce qu'on on veut être. Christ n'avait pas cette attitude-là. Deuxièmement, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de différentes choses. Il a renoncé. Il a mis de côté des choses qui lui appartenaient en tant que Dieu. Par exemple, il a renoncé à la gloire céleste. Il a renoncé à la gloire céleste. Lorsque il va être devant la mort, quelques heures avant, dans la prière finale qu'il va faire, la grande prière du Seigneur, il va dire, Seigneur, toi Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus avait une communion avec Dieu. Il vivait la présence glorieuse de Dieu. Et celle-là lui manquait. Et il va s'en priver exprès pour nous communiquer l'amour de Dieu. Il parle dans Romains 3 de que tous ont péché, que nous avons tous péché et que nous sommes tous privés de la glorieuse présence de Dieu. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, il y avait une présence de Dieu qu'ils vivaient au quotidien. Quand Jésus était dans le ciel, il vivait Dieu au quotidien. Il y avait la gloire de Dieu, il y avait sa présence magnifique, bienfaisante, apaisante pour lui et avec lui et autour de lui. Deuxièmement, il aussi renoncer ou se dépouiller de son indépendance dans son autorité. Il avait créé le monde sous la directive du Père, certes, mais il a créé, il a fait. Et là, tout à coup, il va devenir entièrement dépendant du Père. Il ne va jamais rien faire sans que le Père nous dise, vas-y, fais-le, fais ceci ou fais cela. Troisièmement, il va renoncer à ses prérogatives divines, autrement dit, à ce qu'il aurait pu faire en tant que Dieu. Moi, ce que j'aime chez Jésus, c'est que, en étant pleinement Dieu, à un moment donné, on a du mal à croire que c'est vraiment Dieu. Il est pleinement homme. Il n'est pas venu, je le dis un peu comme ça, crûment, il n'est pas venu faire le malin sur terre. Jouer à Dieu. Je dégaine, allez, un petit miracle par-ci, un miracle par-là. Non. Il ne fera aucun miracle sans que le Père donne l'approbation. Et quand il le fait, c'est pour un but précis. C'est pour amener des hommes et des femmes à croire en lui, ou à croire encore davantage en lui, à fortifier la foi des croyants et à amener des incroyants à croire en lui. Au premier miracle, aux noces de Cana, il va changer de l'eau en vin. Et il est dit là, dans Jean 2, verset 21, il est dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La raison ultime du miracle n'était pas juste pour avoir du bon vin à boire. Hein. La raison ultime, c'était pour que ses disciples croient en lui. Lorsque Lazare était mort, eh bien, il l'a ramené à la vie, non pour faire le malin, là. Allez, moi je suis Dieu, là, vous avez vu? C'est bon, hein? Ouais, super, c'est moi Jésus. Non, c'est pas ça. Le but ultime est marqué dans Jean 11, 45. Quand Lazare est revenu à la vie, il est dit, beaucoup de Juifs crurent en lui. Beaucoup de Juifs crurent en lui. Le diable, lui, savait, et il poussait Jésus à jouer à Dieu. Allez, c'était le fils de Dieu, allez, c'est quoi, t'as jeûné 40 jours, tu te craques des doigts, les petites pierres, là, deviennent des petits pains, hein, voilà, allez, si t'es vraiment le fils de Dieu, t'as qu'à sauter du toit du temple, les anges seront là, ils vont te recueillir. Non, Jésus a renoncé. Et voyez-vous, lorsque les gardes sont venus l'arrêter, et que Pierre a voulu le défendre, « Seigneur, je te défends !» Il dit, mais il suffirait d'un claquement des doigts et quelques légions d'anges viendraient écrabouiller ces petites fourmis-là qui veulent m'arrêter. Quand il a dit, « Qui cherchez-vous ?» Ils ont dit, « Jésus de Nazareth. » Il dit juste, « C'est moi !» Et tous ceux qui voulaient l'arrêter sont tombés en arrière. Alors imaginez simplement qu'il eût donné un ordre à ses anges. Il aurait pu, mais il savait que le but ultime, c'est que lui paye le châtiment que nous méritions à la croix. Oui, il a renoncé, il s'est dépouillé de ses prérogatives divines. Il s'est aussi dépouillé de ses richesses éternelles. Voyez-vous, c'est Jésus qui a créé le ciel, la terre. Ça, on aime bien entendre, c'est facile à comprendre, c'est même très neutre. Le ciel, la terre, les rivières, les lacs, les forêts, les prairies. Mais il a aussi créé l'or et l'argent. Hein. Il a créé le bronze, le métal, le diamant. C'est lui qui l'a créé. Et il aurait pu en faire usage. Mais il a choisi de naître dans une famille modeste, pour ne pas dire pauvre. Il n'est pas né dans la famille de César, ou de Caïphe, ou de Ponce Pilate. Non, il est né chez un illustre inconnu, Joseph, une fille vertueuse, Marie, mais vraiment dans un trou paumé, pardonnez-moi, mais Nazareth, c'était vraiment un endroit, enfin, franchement, c'est pas la villégiature des Israélites. C'est vraiment un coin perdu, le bled. D'ailleurs, on disait, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Et finalement, quand vous le voyez grandir, le Fils de Dieu, c'est quand même pas n'importe qui, le Fils de Dieu, le roi des rois. Eh bien, il va nous montrer un exemple. Il n'a ni maison, ni propriété, ni terre, même pas une famille, même pas une épouse. Il finira sans domicile fixe. Et finalement, même, il finira avec une mauvaise réputation, puisqu'il terminera comme un criminel sur une croix. Et il a voulu par là se rendre accessible par chacun d'entre nous. Aucun pauvre ne peut dire « Dieu ne me comprend pas ». Aucun exclu ne peut dire « Il n'a jamais vécu ce que moi j'ai vécu ». Aucun rejeté ne peut dire « Ce Dieu-là ne me comprend pas ». Je pense que dès le sein de sa mère, Jésus a été rejeté. Par toutes ces mauvaises langues qui ont dû parler sur la vertu perdue de Marie. Et puis finalement, il a dû aussi souffrir quelque part du fait d'être juif. Jésus était inculturé. Ce n'était pas un espèce de Jésus supranational qui appartiendrait là pendant ce temps de vie sur terre à l'ensemble des nations du monde entier. Non, il était juif. Avec tout ce que ça veut dire dans la pensée antisémite qui régnait à l'époque et qui règne aujourd'hui encore. Jésus a été exclu, rejeté. Il s'est mis à la portée de chacun d'entre nous. Et enfin, peut-être le plus grand des dépouillements, c'est le fait qu'il ait renoncé momentanément à cette proximité, à cette relation de cœur à cœur, cette communion avec son Père. Lorsqu'à la croix, il va dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Depuis des éternités, pas seulement des siècles, mais des éternités avant le monde, Jésus était uni avec son Père. Et maintenant, pendant un instant, il va accepter, il va se dépouiller, ou se laisser dépouiller de cette profonde relation d'affection paternelle qu'il a avec son Père. Tout cela pour toi et pour moi. Enfin, il est marqué aussi qu'il s'est, plus loin, il s'est non seulement dépouillé, mais il s'est aussi humilié en prenant une forme de serviteur, en devenant comme un homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Une autre attitude qui marque Jésus, c'est ce côté de l'humilité. Il pourra dire ouvertement, je suis doux et humble, pas de façade, mais de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Un roi qui lave les pieds de ses sujets, un roi qui vient au secours de ses amis. Quand il va venir en pleine nuit secourir ses disciples dont le bateau tanguait sur le lac de Génézaret. Un roi qui n'arrête pas de travailler, qui agit, qui œuvre. L'évangile de Luc nous parle de Jésus comme d'un serviteur souffrant. Il est représenté par un bœuf qui travaille, qui laboure, qui avance, qui tire, qui... Un homme humble. Et puis il est devenu comme un homme. Imaginez-vous que vous puissiez devenir une fourmi. Non mais un instant, imaginez-vous que vous puissiez devenir comme une fourmi. Fragile comme une fourmi. Il suffit d'un courant d'air. Et déjà elle s'envole. Il suffit de trois fois rien. Il est devenu pleinement homme. Moi, j'ai vu arriver mes deux petites filles, elles avaient presque un kilo. Mais quand je les ai tenues, je me suis dit, mais un jour, Jésus était comme ça. Le Dieu du ciel a été aussi petit et aussi fragile et aussi dépendant que ma petite fille. C'est difficile à concevoir, n'est-ce pas? Mais Jésus, Dieu s'est humilié, il s'est mis à notre portée. C'est pourquoi nous avons maintenant auprès de Dieu quelqu'un qui nous comprend. Et quand il prie pour nous, quand il intercède pour nous, il nous comprend. René, il te comprend. Jean-Pierre, il te comprend. Luc, il te comprend. Dieu te comprend, que tu sois un petit enfant, ou que tu sois un vieillard, aux cheveux gris, aux dents usées, il te comprend. Et puis enfin, ce qui me marque peut-être le plus, c'est qu'il a été obéissant, il a marqué, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Saviez-vous que Jésus aurait pu être désobéissant? Jésus aurait pu dire, j'ai 30 ans, j'ai qu'une vie, voilà, profitons-en. Non mais Jésus a été obéissant jusqu'à la mort et son incarnation a été une obéissance elle-même. Et à l'incarnation s'est rajoutée l'obéissance jusqu'à la mort honteuse, outrageante, cruelle de la croix, une mort humiliante. Dieu, il a non seulement il s'est rendu serviteur des hommes, mais en plus il s'est soumis. Imaginez maintenant que je veux aller aider mes fourmis là, les braves fourmis qui vont toutes sur l'autoroute vers l'enfer, et je veux les retenir. Je me mets à leur portée, j'essaie de les retenir, je leur parle, je les sers, je leur indique qu'il y a un monde meilleur. Imaginez autre chose, que je puisse devenir une chenille. Et qu'à ces chenilles, je viens de dire, si vous saviez seulement d'où je viens, Il y a là un monde tellement plus beau. Lorsque vous sortirez de la chrysalide et que vous vous envolerez vers le ciel, et je leur parle de moi, mon monde à moi, j'essaie de les convaincre, de les retenir, je me mets à les servir, je leur montre l'affection, je leur montre que je suis réellement celui que je prétends être, le fils de Dieu, ou le fils de, voilà, ou le fils d'un papillon. J'essaie de les amener dans mon monde à moi, et finalement, au lieu d'être compris, ils me passent dessus. Plutôt, elles me passent dessus, ces chenilles. Et il va accepter les souffrances, il va accepter d'être obéissant aussi aux autorités, à commencer par ses parents, autorités religieuses, autorités civiles. Mais tout cela, il l'a fait parce qu'il nous aime, vous et moi. Et après, il est dit une autre partie du texte. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Je voudrais relever là un principe qui traverse toute la Bible et qui traverse la vie de tous les croyants qui ont marché avec Dieu. Il est tout simple. Celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. Autant Jésus est descendu, il s'est dépouillé lui-même. Un vieux cantique disait « J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Il s'est humilié, il est descendu jusqu'au point le plus bas. C'est pourquoi Dieu l'a légitimement élevé au-dessus de toute chose. Un lieu inaccessible, à une position inaccessible, même à sa mère. Même à tous les saints canonisés. C'est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est au-dessus de toute chose et il est marqué qu'il est là digne de notre adoration, l'adoration du monde entier. Il est marqué là, et tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et il précise que tout genou sous la terre et dans les cieux, et toute langue confessera qu'il est réellement Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Autrement dit, tout l'univers, toute la création un jour va s'agenouiller devant lui et va l'adorer. Et ça, nous avons déjà fait ça un bon bout de temps, nous avons parlé des mages, mais aussi des bergers qui sont venus adorer le Fils de Dieu. J'aimerais arriver à la conclusion tranquillement. Ces quelques versets sont précédés de ce texte qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Je voudrais peut-être en compter au moins trois. Le premier, c'est Jésus avait une juste vision sur lui-même. Il savait qui il était et qui il n'était pas. Voyez-vous, à cet égard-là, il a pu être bien dans sa peau. Je voudrais relire le texte juste au-dessus parce que ce verset qu'on a lu, « Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ » sont précédés de quelques versets. Dans les traductions variées, soit ce verset est juste l'introduction de ce que je viens de lire avant, soit il est la conclusion des versets d'au-dessus. Je voudrais lire avec vous les versets 3 à 5. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. » La version en français courant dit « Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simple et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. » Pas mal ça, hein ? Mesdames, cherchez pas l'intérêt à vous, cherchez l'intérêt de votre mari. Les maris, idem par rapport à vos épouses. Ne faites rien par vaine gloire, par parti pris. Combien souvent des conflits naissent parce qu'on s'accroche ou à une position ou à une dignité. On veut trouver les honneurs. On fait quelque chose, non pas tant pour que ce soit fait, mais pour que finalement on dise « Ah, le Philippe de Kourou, qu'est-ce qu'il chante bien !» Et c'est vrai qu'il chante bien. Bravo Philippe. Mais il chante pour la gloire de Dieu. Sa propre gloire à lui, ça fait longtemps qu'il l'a déjà enterrée. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Deuxièmement, il était empreint d'humilité. La question de fond est toujours, est-ce que ce que je le fais avec la bonne attitude, avec la bonne intention, ou est-ce que je le fais par parti pris, pour une vaine gloire personnelle? La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Des fois je me dis, on prie pour certains sujets, et parfois je me dis, peut-être qu'il y a une raison derrière, pas toujours certainement, mais des fois il me semble qu'il y a des raisons derrière nos prières non exaucées, et peut-être que Dieu nous résiste à certains endroits. Enfin, troisièmement, il y avait la soumission. Et la question de fond, dans un temps de l'histoire marqué par le slogan « Il est interdit d'interdire », le slogan profond de la rébellion qui traverse nos systèmes politiques ou nos systèmes d'éducation même. Eh bien, j'aimerais vous dire, la Bible dit que Jésus a été soumis à son Père, soumis à ses parents, soumis aux autorités en place. Ça ne veut pas toujours dire qu'il a toujours été d'accord avec tout, mais il a été soumis. Et dans l'apôtre Paul, la chose se reproduit. À un moment donné, il est devant le grand prêtre, il est en train d'être jugé à Jaffa, et là, tout à coup, il se met à dire une phrase et on le reprend violemment. Et il dit, excusez-moi, je ne savais pas que c'était le prêtre. Et il est dit, ne pas parler mal de l'autorité en place. Il était soumis. Est-ce que je sais respecter les autorités en place? Est-ce que je sais respecter un sens interdit? Même devant l'église, à 30 mètres de la porte d'entrée. Ça peut coûter cher de ne pas le respecter. Je le rappelle ce soir. Ça coûtait des points à certains déjà. Et même de l'argent. C'est dommage. Est-ce que je sais respecter mes parents? Est-ce que je sais les honorer même quand j'ai 45 ans comme moi? Est-ce que je sais respecter les autorités en place, partout où elles sont? J'ai lu les histoires de vie, celles de, par exemple, de Joseph. Moi, j'aime celle-là parce qu'elle me paraît extrêmement intéressante. Mais Joseph a respecté Potiphar, celui qu'il avait acheté comme esclave. Il l'a respecté profondément. Malgré cela, il est parti en prison et là, il a respecté l'autorité du geôlier. Et il a mené une bonne attitude. Et parce qu'il avait une bonne attitude, eh bien, on l'a élevé. Et même si on l'a oublié, Dieu ne l'a pas oublié. Et finalement, autant il a été abaissé, autant Dieu l'a élevé. Je conclue, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Cette parole est une parole vivante. Non seulement Dieu veut être avec nous, mais il veut aussi habiter en nous. Une prophétie d'Ézéchiel disait que voici viendra le temps où je viendrai vous purifier avec une eau pure, mais je mettrai mon esprit en vous. Je changerai vos cœurs de pierre et j'y mettrai des cœurs de chair. Et je répandrai mon esprit en vous afin que vous obéissiez à mes commandements. Autrement dit, une vie veut rentrer en nous. Une vie semblable à celle du Christ. Avec les émotions, avec les sentiments, avec les intentions qui animaient le Seigneur. Et dans ce texte que nous avons lu, qui est un texte théologique assez profond, on pourrait passer des heures là-dessus, moi il se dégage une pensée de fond. Un sentiment de fond qui est celui de l'humilité, celui du respect, celui de la générosité. On est loin de trois choses qui marquent le temps actuel. L'orgueil, la rébellion et l'égoïsme. on est très loin de l'égoïsme. Si Jésus avait été égoïste, s'il avait été orgueilleux, il aurait joué au bon Dieu. Mais Jésus s'est humilié. Il s'est dépouillé. Il s'est mis à notre portée. Et il nous a parlé de l'amour de Dieu. Il est venu apporter avec lui la paix aux hommes. En tout cas pour ceux qui voudraient bien le suivre et l'accueillir dans leur cœur. Et ce soir, je voulais poser deux questions toutes simples. D'abord aux croyants, quels sont, face aux circonstances de votre vie actuelle, face à ce que vous traversez momentanément, quels sont les sentiments qui animent vos cœurs? Est-ce qu'ils ressemblent à ceux de Jésus? Moi, je suis frappé. Vous savez, quand Jésus est en train d'agoniser sur la croix, moi, je suis frappé de la réaction qu'il a. Il va prier pour ses bourreaux et dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mon œil, enfin, mon œil, non, mais dans le sens, c'était des hommes de guerre. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils voulaient lui faire mal. C'était le but de faire souffrir le supplicié. Et la croix avait été, je dirais, le supplice qui avait été poussé à l'extrême pour que vraiment les gens souffrent longtemps et meurent lentement. Et lui, il réagit du tréfonds de son être en disant « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment aurais-je réagi ? Quels seraient les mots qui me seraient sortis de la bouche ? Je ne suis pas certain que j'aurais dit ça. » Alors vous allez me dire, mais c'est impossible en tant qu'humain. Oui, c'est impossible. C'est pour ça qu'il vous faut la vie nouvelle en vous. C'est pour ça qu'il vous faut le Saint-Esprit en vous. Sinon, c'est impossible. La barre est trop haute. La barre est vraiment trop haute. Et puis à vous qui peut-être êtes là ce soir en visiteur, croyant ou non, la Bible dit qu'un jour, tout genou fléchira. Dans les cieux, en parlant des anges. Sur la terre, en parlant des croyants et des incroyants. Et sous la terre, en parlant du monde des ténèbres, du monde de l'enfer, les démons et le diable. Un jour, toutes ces personnes plieront le genou et confesseront que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors la question de fond ce soir, ce n'est pas quand plierez-vous le genou? Parce que si vous le pliez maintenant, c'est pour recevoir le salut éternel. Si vous le pliez dans l'au-delà seulement, c'est pour recevoir une condamnation éternelle. La question cruciale sera, où est-ce que je plierai le genou? N'attendez pas. C'est le moment de le faire. Et je vous y invite ce soir, que nous puissions terminer en chantant. Une fois que nous avons prié avec Samuel, en chantant du fond de notre cœur, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Amen. Amen, Samuel.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.